François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
François Hellebrun, vous êtes professeur associé à Sciences Po Paris et avec vous, nous allons revenir sur la rencontre hier soir entre le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les annonces faites lors de la conférence de presse par le président américain défraient les chroniques aujourd'hui. En résumé, Donald Trump veut faire évacuer les près de 2 millions de Palestiniens de Gaza vers d'autres endroits au Moyen-Orient et il ne veut pas d'implantation juive dans la bande de Gaza. Il a annoncé que ce ne serait pas une mauvaise idée si les États-Unis prenaient le contrôle de la bande de Gaza. Sur l'annexion de la Judée-Samarie, il déclare que des discussions sont en cours et qu'il ferait une annonce dans un mois. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Après toutes ces déclarations, est-ce que la solution à deux États pour Donald Trump est de l'histoire ancienne ?
Oui et non. Oui et non. Ce qui est très surprenant avec Trump numéro 2, puisqu'on a eu Trump numéro 1 il y a 4 ans et maintenant il revient, c'est qu'il mélange à la fois une vision isolationniste du monde et une vision impérialiste. Isolationniste parce que c'est America first, l'Amérique d'abord, mais une vision impérialiste, comme on l'a vu avec sa déclaration, il veut annexer le Groenland, il veut que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, il veut annexer le canal de Panama. Et maintenant, si je comprends bien, mais j'ai du mal un peu à comprendre comme vous, il veut annexer Gaza, que Gaza devienne un territoire américain, peut-être pas un État, mais un territoire américain. Donc c'est une vision totalement impérialiste du monde qui est contraire à sa vision isolationniste, c'est-à-dire que lui qui voulait se concentrer sur les États-Unis et se retirer du monde, ben là, il rentre en plus dans ce qu'on appelle le chaudron moyen-oriental qui est explosif et sur le territoire le plus explosif de tous les territoires qui est Gaza. Donc c'est un peu incompréhensible si on le prend au premier degré. Je vais venir à la réponse à votre question sur la solution à deux États. Mais si on le prend au premier degré, mais d'un autre côté, il a écrit un livre très intéressant qui est très représentatif de sa culture d'entreprise qui s'appelle The Art of the Deal, l'art de la transaction. Et en fait, c'est fondamentalement un promoteur immobilier avec des techniques assez rugueuses. C'est-à-dire qu'il met la barre très haut, un peu comme beaucoup de vos auditrices et auditeurs ont fait l'expérience, comme moi et vous, du souk à Jérusalem. C'est que vous arrivez, vous voulez acheter une kippa à un vendeur arabe de Jérusalem et vous lui demandez combien vaut la kippa, il vous dit 10 dollars. Il dit, comment ça, 10 dollars? Une kippa, c'est 1 dollar ou 2 dollars? Il dit, non, 10 dollars. Donc il met la barre très haut au début de la négociation. Et évidemment, vous finissez par payer 3 dollars, c'est quelque chose qui ne vaudrait que 1 dollar. Mais c'est un peu la même technique de Trump. Il met la barre très haut, mais je ne comprends pas très bien ce qu'il cherche à atteindre. Deuxièmement, sur la solution à deux États, clairement, il considère que Oslo est un échec, que la solution à des États n'est pas viable, et que c'est une solution régionale, c'est-à-dire, je pense qu'il réactivera le vieux plan de Shimon Peres, qui n'était pas idiot d'ailleurs, c'était que la solution passe par la Jordanie, qui est un État palestinien à 70%, avec une association, un territoire de Judée et Samarie, en partie là où les grandes concentrations démographiques palestiniennes soient rattachées à la Jordanie. Et la Jordanie est déjà un État un peu croupion des États-Unis, puisque sans la protection militaire américaine et l'aide financière américaine, la Jordanie, ce sera un État failli. Un peu comme l'Égypte d'ailleurs. Donc il a des moyens de pression, Trump, et il faut l'écouter très sérieusement. Mais c'est effectivement très, très, très étonnant, ces déclarations. Il place la barre très, très haut. On va voir ce qu'il va en tirer, mais c'est un peu comme sur le Groenland et le Canada. Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre? En fait, sur le Canada, c'est plus des relations, sur les relations commerciales. Sur le Groenland, c'est plus la maîtrise des ressources naturelles du Groenland. Là, sur Gaza, je ne vois pas tellement l'intérêt parce que ça nécessite de déployer des forces américaines militaires au sol. Et ce qu'on l'a déjà vécu avec les États-Unis, aussi bien en Afghanistan, en Irak, au Liban, il y a 40 ans. Quand vous envoyez des troupes au sol dans ces régions-là, bah, vous avez beaucoup de morts et l'opinion américaine n'aime pas ça.
Alors, François Hellebrun, on le voit, Donald Trump veut aller vite, quitte à heurter, bousculer et déranger. Il ne veut plus de guerre, son ambition est de finir celle qui existe aujourd'hui, que ce soit au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine. Et paradoxe propre à Donald Trump, c'est qu'il déclare dans le même temps des guerres commerciales Et cela marche. Le Mexique vient de déployer 10 000 soldats à sa frontière avec les USA pour lutter contre le trafic de drogue et éviter des taxes douanières de 25%. Même chose pour le Canada. Le Panama qui revoit actuellement ses accords avec la Chine. Le président Zelensky qui est prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Et la Colombie qui entre dans les rangs. On voit mal comment l'Europe va résister au rouleau compresseur du président américain.
Tout à fait. C'est un peu ce qu'on évoquait à l'instant. C'est sa technique. C'est pression maximum. Demande qui paraît complètement farfelue. Mais en fait, c'est pour partir d'une position de négociation très dure au départ et pour obtenir quelque chose derrière. Et effectivement, les 25% de droits de douane sur le Mexique ou le Canada, bah, c'est totalement assassin, parce que c'est évidemment le premier marché d'exportation pour ces deux pays sont les États-Unis, donc 25% de droits de douane, vos produits ne viennent plus du tout compétitifs localement, donc ça, vous perdez facilement 50% de chiffre d'affaires, donc c'est pas viable, et donc vous allez faire des efforts politiques, économiques, et on voit avec le Mexique sécuritaire, pour essayer de répondre à cette pression. À la fin, vous allez négocier, et les douanes ne seront pas montées, mais Trump aura obtenu, par ce levier économique commercial, une pression maximum. Sur les Européens, c'est vrai que les États-Unis, depuis très longtemps, à juste titre, reprochent aux Européens leur sous-investissement en dépenses de sécurité, de dépenses militaires, de dépenses de défense, et c'est vrai que depuis fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est beaucoup tous abrités sous le parapluie américain, à commencer par les Allemands. Et donc, là où les Américains dépensent 4% de leur PIB en dépenses militaires, l'Europe est à peine à 2%. La France est un de ceux, avec l'Angleterre, qui dépense le plus, mais les autres pays, pas beaucoup. Et donc, c'est une manière de mettre de la pression sur les Européens pour que les Européens portent leur fardeau dans la défense de l'Europe. Et on l'a vu aussi entre l'agression et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ceux qui ont mis l'argent sur la table pour défendre et les armes pour défendre l'Ukraine, ce sont les Américains, pas tellement les Européens. Ça a été même ridicule, et la France encore plus ridicule. Et donc c'est une moyen, sûrement la menace commerciale sera une moyen pour que la défense européenne peut-être enfin voit le jour, ce qui serait une bonne chose, surtout face aux visées complètement impérialistes et dangereuses de Poutine et de la Russie.
Alors, on va quitter la géopolitique, on va revenir en France pour finir et sur la défaite de Louis Boyard, candidat LFI à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, où figurait sur sa liste un candidat pro-Hamas. Que peut-on dire de cette défaite et de la stratégie électorale de la France insoumise ?
C'est une excellente nouvelle, vraiment une excellente nouvelle pour tous les Français attachés à la République, aux valeurs démocratiques. Et à la modération. La stratégie électorale LFI localement est en train de subir des échecs très violents. Il y a évidemment cette défaite à Villeneuve-Saint-Georges, qui est clé, sur laquelle on va revenir, mais il y a eu une défaite il y a quelques semaines à Grenoble, où il y avait une élection législative partielle, où c'était un député LFI d'ailleurs qui avait été exclu de l'Assemblée nationale pour harcèlement sexuel et violence sexuelle. Et donc, il y a eu une élection partielle et le candidat LFI a été très largement battu par le candidat républicain. Et il y a eu une mobilisation à la fois du centre et de la droite pour faire battre le député LFI. Et deuxièmement, il y a eu une non-mobilisation de la gauche démocratique pour soutenir le candidat LFI. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi à Villeneuve-Saint-Georges, parce que ce qui est très frappant en regardant ce qui s'est passé, Louis Boyard, entre les deux tours, il est arrivé en tête au premier tour, n'a récupéré que 800 voix de l'autre liste de gauche, là où la candidate LR et future maire Christelle Niasme a vu son score progresser de 1500 suffrages et de 26 points. Donc il y a eu un excellent report des centristes et de la droite sur la candidate LR, et a contrario, les écologistes, les socialistes ne sont pas allés voter, ou ont quasiment pas voté, ou même voté pour le candidat LR au deuxième tour pour faire barrage à Louis Boyard. Louis Boyard, qui est quand même un personnage tout à fait nuisible, il a 24 ans, c'est un ancien dealer de drogue, c'est sa seule formation, et c'est surtout, je l'ai vu moi sur le plan universitaire, c'est surtout l'agitateur et l'organisateur du syndicat proche de LFI Union étudiante, et toute la radicalité qu'on a vécue dans les universités l'année dernière était coordonnée par Louis Boyard. Donc cette défaite est doublement intéressante, c'est-à-dire que quelqu'un de non estimable et qui est là, ses députés, ne sera pas maire de cette belle commune de Villeneuve-Saint-Georges de 35 000 habitants, mais qu'en plus la stratégie électorale de LFI locale montre ses limites. C'est-à-dire que sa radicalité, son alignement sur le Hamas, sa collusion, qu'on a vu en plus à Villeneuve-Saint-Georges, avec des candidats pro-terroristes, pro-Hamas, islamistes intégristes sur sa liste, lui fait gagner assez peu de voix du côté des musulmans, parce que la plupart des musulmans ne sont pas intéressés par, ni attirés par cet extrémisme-là, et lui fait perdre énormément de voix chez les modérés, de la gauche démocratique, notamment au Parti Socialiste et chez les écologistes. Donc j'espère que c'est une vraie claque, j'espère aussi qu'ils ne gagneront aucune grande commune au municipal de 2026, et que c'est peut-être la fin de LFI, et on le voit aussi à l'Assemblée nationale avec le souhait des socialistes de ne pas voter la censure et la brèche qui se crée dans cette alliance incongrue du nouveau Front populaire. Donc ce sont des bonnes tendances et le côté raisonnable des élections locales montre que l'extrémisme, l'intégrisme islamique de LFI ne passe pas bien sur le terrain et ne passe de moins en moins bien.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.